avec le séminaire du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Aujourd'hui, pour le séminaire diocésain, nous accueillons l'abbé Louis-Marie Rino, le supérieur. Bonjour.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors la semaine dernière, les séminaristes ont eu, je crois, des examens.
Ah oui, comme tous les étudiants, ils ont deux... Alors leur année est divisée en deux semestres et chaque semestre est clôturé par une séance de révision et une séance d'examen. Donc ils ont eu une semaine de révision et la semaine dernière, une semaine d'examen.
Et là, c'est pèlerinage à Lyon pour tous les séminaristes ?
Pèlerinage à Lyon, oui. Au milieu d'année, on fait toujours un pèlerinage. Et puis cette année, on a choisi d'aller se ressourcer dans les hauts lieux spirituels, de Lyon, donc les martyrs de Lyon, Fourvière. On ira faire aussi un petit passage à Ars et nous serons hébergés au Prado par un prêtre du diocèse, l'abbé Dominique Nalis, qui se fera un petit peu notre guide durant tous ces jours. J'ajoute que... Pendant ce pèlerinage, tous les séminaristes diocésains se retrouvent, donc il n'y a pas seulement ceux du séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, mais aussi ceux du séminaire d'Anglet, du séminaire Redemptoris Mater. Donc ça fera, en tout, nous serons une vingtaine à pèleriner sur les traces de nos ancêtres dans la foi.
Et à propos des séminaristes de Redemptoris Mater, donc le séminaire Anglet, il y a un événement important le dimanche 5 février.
Oui, Monseigneur va admettre comme candidat au sacerdoce trois séminaristes, qui sont des séminaristes du chemin, mais qui sont néo-catéchuménales, mais qui sont destinés à être prêtres du diocèse, s'ils vont jusqu'au bout, si Dieu veut. Et là, c'est la première étape officielle sur ce chemin, puisqu'ils seront admis officiellement comme candidats au sacerdoce. Donc il s'agit de Jérôme Coffi, d'Abel Santiago et d'Emmanuel Nunes Pérez. Donc tous les trois seront admis comme candidats au sacerdoce et un autre, Miguel Andrel Contreras, lui, sera institué lecteur. Donc c'est la deuxième étape en fait, avant d'être ordonné diacre puis prêtre, il faut d'abord être admis comme candidat au sacerdoce la première année du second cycle. Donc ça suppose qu'on a déjà 3 voire 4 années de préparation derrière soi. Puis l'année suivante, on est institué lecteur. Et l'année suivante, si Dieu veut, instituer acolyte. L'étape suivante étant l'ordination, non plus l'institution, mais l'ordination au diaconat, puis au sacerdoce. Donc quelques jeunes qui s'avancent, qui s'approchent davantage de l'échéance, c'est une bonne nouvelle.
Vous connaissez tout ça très bien, les étapes pour chaque séminariste vers le sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, un jeune, il rentre d'abord en propédeutique?
Une année de propédeutique d'abord. Si l'appel est confirmé, puisque c'est le but de l'année propédeutique, il rentre au séminaire. 2 années de premier cycle où il fait surtout de la philosophie. Ensuite, souvent 1 année, voire 2 années de stage, où il sort du séminaire pour se mettre au service d'une paroisse, d'un mouvement, que sais-je, des plus pauvres aussi, en France ou à l'étranger. Et puis après 3 années de second cycle, où il fait surtout de la théologie, et là, c'est là que se situent les fameuses étapes dont je viens de parler. D'abord, la première année, l'admission parmi les candidats au sacerdoce, la deuxième année, le lectorat, l'institution comme lecteur, et la troisième année, l'acolyta. Et puis après, il sort du séminaire, il est ordonné diacre, et pendant 1 année, il fait ce qu'on appelle un stage diaconal, dans une paroisse souvent.
Pour tous ceux qui nous écoutent attentivement, si vous voulez en savoir plus et sur le séminaire et sur le parcours d'un prêtre, vous ouvrirez vos portes prochainement.
Ah oui, il ne faut pas rater cet événement de notre séminaire annuel qui est les portes ouvertes. Nous les avons planifiées cette année pour le samedi 1er avril, donc ce n'est pas une plaisanterie, c'est pour de vrai, ce n'est pas un poisson d'avril. Samedi 1er avril, les portes ouvertes. Donc nous ouvrons, comme le nom l'indique, les portes de notre séminaire à tous ceux qui le souhaitent pour faire visiter, pour partager un moment de prière, pour des témoignages aussi. Donc faut pas hésiter à venir avec des amis éventuellement, voir des non-chrétiens qui peuvent être, ou des non-baptisés, ou des non-pratiquants qui peuvent être intéressés par la chose. Nous-mêmes, nous faisons précéder cette journée de porte ouverte par du porte-à-porte. Nos séminaristes vont dans le quartier pour inviter nos voisins à venir nous trouver. Tous les ans, on a des voisins qui viennent nous voir. On se croise habituellement, parfois on s'est même pas rendu compte qu'on était voisins, donc c'est un peu dommage. Donc c'est à la fois l'occasion pour eux et pour nous de nouer des vraies relations de voisinage, et puis en même temps plus profondément, de leur faire découvrir notre vie, notre appel, notre désir de servir le Christ. Donc c'est chouette de ça, chaque année de voir des têtes nouvelles comme ça, de gens qui viennent découvrir un peu ce que c'est que le séminaire et comment ça fonctionne.
Donc notez bien la date des portes ouvertes au séminaire de Bayonne, le samedi 1er avril.
J'ajoute qu'il ne faut pas hésiter aussi à venir avec des groupes d'enfants, par exemple, qui sont catéchisés, des groupes de catéchèse, des groupes d'aumônerie. Évidemment, il faut en parler aux prêtres responsables. Mais c'est une excellente activité pour des enfants, d'ailleurs, qui pourront être pris en charge, d'ailleurs, plus ou moins par nos séminaristes. Alors, quand on vient au groupe, c'est bien de nous prévenir pour que nous puissions éventuellement nous préparer, nous adapter, et puis organiser ça au mieux.
Ensuite, il aura la caravane des vocations, ça c'est au mois de mai.
Alors non, ça c'est ce sont les 11 et 12 mars, il y en aura une autre au mois de mai. Ouais. Donc on a 3 caravanes des vocations sur l'année, c'est une activité où le séminaire se déplace, sort des murs du séminaire, pour aller tous ensemble à la rencontre d'une paroisse, pour découvrir la paroisse et que la paroisse nous découvre aussi. C'est bien pour nos jeunes de voir comment ça fonctionne dans telle paroisse, comment ça fonctionne autrement dans une autre paroisse. Ça permet de découvrir le diocèse, de découvrir ce que c'est concrètement la vie d'un prêtre, la vie d'une paroisse de notre diocèse. Et donc c'est très enrichissant à la fois pour les jeunes et en même temps pour les paroisses en question. Donc là, les 11-12 mars, nous irons à l'Escar et nous en aurons une autre au mois de mai, mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard.
Donc, les séminaristes ne restent pas enfermés au séminaire ?
Eh non.
Ils
vont ad extra, exactement. C'est normal, ça fait partie du double rythme du séminaire. Il y a des temps de vie en communauté intense, hein, des temps de prière. C'est important qu'ils aient cette vie au calme, j'allais dire, mais en même temps, toutes les semaines, chacun d'eux va à la rencontre d'une paroisse à laquelle il est plus particulièrement attaché pour la messe du dimanche, sauf s'il est pris par des activités apostoliques, ce qui est quand même assez fréquent, hein, que les séminaristes doivent le week-end se consacrer à tel ou tel groupe de jeunes, telle ou telle activité. Surtout des activités diocésaines. Mais en dehors de ça, donc, tous les dimanches, ils vont dans une paroisse où ils participent à la messe du dimanche et puis où ils restent ensuite manger avec l'équipe sacerdotale du coin, ce qui leur permet de découvrir une autre facette. Et puis, ils ont chacun aussi une activité apostolique qui les prend chaque semaine. Pour un groupe de catéchistes, qui pour un groupe d'aumônerie, ou tel autre pour un groupe de louveteaux. Voilà, ça leur permet de faire aussi leurs armes, puis de découvrir telle année ce que c'est que de gérer un groupe d'aumônerie, telle autre année, et petit à petit d'acquérir des compétences, les compétences, si Dieu veut, du futur pasteur qu'ils sont appelés à être.
Abbé Louis-Marie Rinaud, il y a ensuite ce grand rendez-vous qui a déjà été annoncé. C'est cette journée pour les vocations voulue par les évêques de toute la province.
Ah oui, ça c'est formidable, hein. Un pèlerinage familial pour tous les diocèses de la province, donc à Bazas le 29 avril. Alors ça c'est vraiment une date à retenir, parce que je dis ça parce que les évêques ont eu l'excellente idée de prévoir deux activités cette année, un pèlerinage des prêtres qui a déjà eu lieu, je sais plus, je crois que c'était au mois de novembre, on s'est retrouvés au berceau de Saint-Vincent de Paul, et nous étions un nombre de prêtres, mais putain, j'ai été étonné du nombre de confrères, on venait vraiment de partout, il y a des prêtres qui venaient d'Agen, certains étaient arrivés la veille au soir pour coucher sur place, et tous ensemble, entre confrères, on a prié et marché tous ensemble pour les vocations. Moi, j'ai été enthousiasmé par cette activité. Je sais plus combien on était, 150, je crois. Et puis nos évêques, pratiquement tous nos évêques étaient là, sauf un qui était malade. Non, vraiment un très beau moment aussi de convivialité entre confrères. Bon, pour moi, c'était un peu les trois coups avant ce grand pèlerinage des familles à Bazas, qui va permettre tous ensemble, de toutes les vocations du peuple de Dieu, de tout nous retrouver en Église, pour ensemble supplier, mais vraiment encore, hein, supplier le Seigneur, prier aussi dans la confiance et dans l'espérance, hein, c'est pas une journée des pleureuses, de nous envoyer les ouvriers dont nous avons besoin. Ça va être un très bel événement, moi je me réjouis à l'avance, et puis nos évêques ont été inspirés pour l'organisation de ces deux événements.
Donc ça, c'est le samedi 29 avril.
Samedi 29 avril à Bazas. Ça va être une très belle journée.
Pour terminer, Abbé Louis-Marie Rinaud, vous êtes religieux, vous êtes prêtre de la fraternité Saint-Thomas Becket. Alors j'ai envie de vous demander tout simplement comment est née votre vocation.
Ah, alors d'abord, je dois dire que nous ne sommes pas religieux. Alors c'est un petit... Ouais. On porte un habit... la méprise est compréhensible. Hein. Nous portons un habit de type religieux parce que, effectivement, nous avons une vie communautaire dans la communauté à laquelle j'appartiens, une vie communautaire très, très forte. Nous avons, normalement, nous avons la vie en commun, la prière en commun, les repas en commun. Voilà, donc on est vraiment très pris, mais c'est une grande grâce. Hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette communauté. De manière définitive, que je me suis engagé après quelques années de préparation. Et cette vie communautaire est pour moi une grande grâce, un grand cadeau que me fait le Seigneur, qui est un grand soutien dans ma vie de prêtre. Mais techniquement, nous ne sommes pas des religieux, voilà, en droit hein, de ecclésial, ça a un sens très précis ce mot. Nous sommes juste une association de prêtres, voilà, ou une communauté. Comment est née ma vocation ? Ben, vous savez qu'il y a autant de vocations que de prêtre, j'ai pu m'en rendre compte en échangeant avec d'autres confrères sur le sujet. Alors on peut diviser les vocations de deux types, il y a les vocations un peu, c'est comme le mariage, hein. Vous savez, il y a les mariages coup de foudre, et puis vous avez les mariages où la relation se découvre petit à petit, et après avoir connu, fréquenté longuement une personne, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on, finalement, c'est lui, le conjoint, la conjointe que je cherchais. Alors je connais des confrères qui ont eu des vocations coup de foudre. Moi, je suis plutôt du deuxième type, donc c'est une vocation qui s'est décantée au fil des ans. Je crois que la première fois que j'y ai pensé, c'était à l'adolescence. On m'a dit que je jouais à célébrer la messe quand j'étais petit. J'ai pas de souvenir de ça, donc.
Vous entraîniez.
Faut croire. Pourtant, après, j'avais horreur de tout ça. Étant adolescent, je vais vous dire, avant d'être séminariste, je ne servais jamais la messe. Mes parents savaient que j'étais farouchement opposé. Sauf dans le cadre du scoutisme, là ça allait, mais je trouvais ça ridicule à l'époque d'être habillé avec une robe dans le chœur devant tout le monde, quoi, c'est pour vous dire.
Mais, comme quoi tous les chemins mènent à Dieu.
Et ben, c'est ce que je pensais. Et donc ben, voilà, mais à l'adolescence c'est une question qui a commencé à me travailler vraiment, et j'ai beaucoup, ça m'impressionnait beaucoup en fait, pour tout dire. Et je n'avais pas planifié ma vie, si je puis dire, de cette manière-là. Je m'imaginais autrement, fondant une famille, un métier, etc. Mais j'ai senti cette question qui se posait, qui se reposait avec insistance. Donc, sans en laisser paraître à l'extérieur, sauf mon meilleur ami, surtout pas mes parents, ni à ma famille, mais j'en ai parlé à mon meilleur ami et puis à un prêtre en qui j'avais confiance. Et j'ai prié cette intention-là tout au long assez tôt. Je me souviens que tous les soirs, je priais une dizaine de mon chapelet à cette intention-là. Seigneur, je n'osais pas lui dire, Seigneur, aide-moi de répondre oui à ton appel. Alors, je disais, Seigneur, donne-moi la force de répondre à l'appel que tu m'adresses, voilà, quel qu'il soit. Et bien m'en a pris, parce qu'au fil des ans, petit à petit, j'ai apprivoisé cet appel, si je puis dire. Et puis, au bout de quelques années de réflexion et de prière, j'ai fait le grand saut. Et ma foi, je dois dire que le Seigneur m'a fait découvrir de plus en plus de richesses depuis cette époque-là. Donc, merci Seigneur.